Merci les musiciens. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Révélation Bible du Rubénis. Tout le monde va bien?
Oui.
Notre frère Philippe est dans le gros avion. Il est en route pour le Togo, où il va rester, je crois, une semaine, c'est ça?
10 jours.
Et c'est pour continuer le travail au sujet de ces puits qui n'ont plus de tuyauterie correcte, et il a fait un bon boulot là-bas. Vraiment, que Dieu le bénisse. On était content que il est resté quand même avec nous hier, parce que c'était Michou et moi nos 50 ans de mariage. On était content qu'il soit avec nous. Et puis ce matin, de bonne heure, Marie-Claire l'a emmené. Vous êtes parti à quelle heure?
On est parti à 3h30.
Maman mia. Et oui. Et là, il va arriver, il fera un petit 45 degrés à l'ombre. Enfin bon, on prie pour lui. Je vous demande à vous qui êtes sur Révélation Bible de prier aussi pour notre frère Philippe, que tout se passe bien, parce que c'est des zones qui sont très escarpées, très, voilà, c'est difficile d'accès. Et voilà, que Dieu le bénisse richement, et je sais qu'il va nous écouter grâce à l'internet. Il va écouter ce que nous sommes en train de faire ce matin. Que sommes-nous avant tout? Que sommes-nous avant tout? Eh bien, nous sommes ce que Jésus était quand il était sur terre. Alors, qu'est-ce qu'il était? On va lire en Jean 4, 17. Alors, 1 Jean 4, 17 nous dit une chose tout à fait particulière. Elle nous dit que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Et ensuite, dans Luc 9, 10, il est dit, ça doit pas être ça. On va plutôt lire 1 Timothée 1, 5. 1 Timothée 1, 15. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Nous sommes venus dans ce monde pour cela. Jésus est venu sur cette terre pour sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 4, verset 19. 4, 19, il leur dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils ont laissé leur filet, leur boulot, ils sont partis, ils ont été des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs de poissons, ils sont passés à des pêcheurs d'hommes. Une des dernières paroles de Jésus, on la trouve dans Matthieu chapitre 28-19, où il dit, « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec nous, ça on se l'approprie, mais il faut aussi s'approprier le fait que nous devons aller faire de toutes les nations des disciples. Parce que si on pense, ah oui, mais il a dit ça à ses disciples, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Alors ça, c'était pour les 12. Alors si vous pensez ça, il faut aussi que vous pensiez que Jésus n'est pas avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout ce que Jésus dit à ses disciples, il les dit à ses disciples d'aujourd'hui aussi. C'est ça que je veux vous faire comprendre, vous voyez. Il faut s'approprier ces paroles pour nous. C'était une des dernières paroles de Jésus dans Actes, chapitre 1, verset 8. Il dit, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous avons à être des témoins. Aujourd'hui, on a envoyé un témoin, notre frère Philippe, parce qu'il ne va pas faire que poser des tuyaux, hein. Il va aussi témoigner, parler de Jésus. Là-bas, ce sont surtout des musulmans, des animistes, voilà, et il va leur parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est certain. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas s'en empêcher. C'est normal, ça fait partie de notre nature. Jésus est venu pour ça, pour sauver les gens. Et c'est pour ça qu'il a vécu, c'est pour ça qu'il est mort, c'est pour ça qu'il est ressuscité. Et il nous a envoyé son esprit, il a envoyé son esprit à ceux qui croient en lui, pour qu'ils puissent être capables de rendre témoignage de lui. On trouve ça dans Actes chapitre 1, verset 8, où il dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans ma Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est bien de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, de parler en langue, mais nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit surtout pour être remplis de puissance, pour pouvoir témoigner. Témoigner pas seulement en parole, mais aussi avec des signes, des miracles, des prodiges, comme lui faisait. Tel il est, tel nous sommes. C'est ce qu'on a lu au début. Et pour confirmer qu'il est bien vivant, qu'il est bien réel, qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nous faisons ce qu'il faisait. Savez-vous que le mot chrétien veut dire comme Christ ? Il est venu pour chercher et sauver les perdus, et nous sommes comme Christ. Et puis la Bible dit, hein, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et pour les chrétiens, pour les comme Christ, nous devons donc être, si nous sommes chrétiens, nous devons être comme lui, faire comme lui, chercher à conduire les gens au salut. C'est la première, c'est pour ça qu'on est venu sur cette terre, c'est pas pour autre chose. Bien sûr qu'il faut gagner sa vie, bien sûr que, voilà, partout on peut témoigner, partout. Il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas témoigner. Vous allez me dire, oui, mais dans mon boulot, c'est pas permis. Il y a toujours un moment de pause où on peut parler. On ne peut pas venir me raconter des histoires. Et Jésus vit en nous et il veut faire en nous et au travers de nous les mêmes choses qu'il faisait quand il marchait sur la terre. Cependant, il y a des centaines de millions de chrétiens qui n'ont jamais eu la joie de conduire quelqu'un, de permettre à Jésus qui vit en eux de sauver quelqu'un. Il y a des centaines de millions de chrétiens qui n'ont jamais eu cette joie d'emmener quelqu'un à Jésus. Il y a même des prédicateurs qui n'ont jamais emmené personne à Jésus. J'en connais. Jésus portait son message aux gens, il allait le porter là où étaient les gens, sur les places publiques, dans les rues, au bord de la mer, dans les maisons, enfin vous avez qu'à lire la Bible, vous verrez, Jésus allait partout. Et il était critiqué par les chefs religieux, ça c'est tout à fait normal, parce qu'il s'identifiait aux gens où il était, où il allait. Alors les religieux murmuraient entre eux, ils disaient « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, il mange avec eux ». On trouve ça dans Luc 15, 2. Quelle horreur! Vous imaginez Jésus qui allait chez des gens de mauvaise vie, qui buvait avec eux, qui mangeait avec eux, il était... Voilà. Mais les religieux, ah non, ils se mélangeaient pas avec ça, c'est la plèbe, c'est ça. Et puis ils auraient pu salir leurs beaux vêtements qu'ils avaient fait faire avec leurs rideaux. N'est-ce pas, avec brodé d'or et puis leurs chaussures Prada, tout ça, voilà. Jésus n'était pas du genre à se présenter aux gens en arrivant en disant, vous savez, je suis plus saint que vous. C'était pas un snob de la religion, il parlait avec les gens, il riait avec les gens, il n'était pas distant, il n'avait pas une piété ostentatoire, il n'arrivait pas, n'est-ce pas, avec des gestes spéciaux et une bague qu'il fallait embrasser ou des machins, non, pas du tout. Jésus côtoyait le commun des mortels, et le commun des mortels était sa raison d'être dans ce monde. Voilà. Et nous, mes frères et sœurs, il faut comprendre que son but, c'est notre but. C'est ce que nous avons à faire. Son plan, c'est notre plan, ça va être notre plan de vie. Il est venu pour sauver les gens et nous sommes dans ce monde pour le même but. Dans Jean 18, 37, il est dit, Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et c'est ce que nous sommes aussi appelés à faire. Je suis toujours frappé, moi, quand on reçoit du monde, les gens passent au moins trois quarts d'heure à raconter par où ils sont passés. Ah ben, nous, on a pris la route du bas, on s'est retrouvé avec la femme assise dans le dos, et puis on aurait peut-être pas dû passer par le haut. Bon, c'était plus compliqué parce que c'était par le bois, mais on a pensé que c'était mieux de passer par... Et puis alors, on a pour trois quarts d'heure à parler de niaiserie, mais les gens rendent plus témoignage à la vérité. C'est bizarre, c'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes dans ce monde. Jésus est venu dans ce monde pour ça. Dans Jean 20, 21, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il ne dit pas ça qu'à ses disciples, qu'aux douze. Il dit ça à tous ceux qui le suivent, à tous ceux qui sont disciples aujourd'hui. Nous devons donc rendre témoignage à la vérité, en parler, la manifester. Il a dit, je suis la vérité, le chemin, la vie, Jean 14, 10, et nous avons à principalement occuper notre vie Et puis, on a tellement de moyens que lui n'avait pas. Par exemple, Internet, le téléphone, tout ça, c'est extraordinaire, c'est des moyens de communication fantastiques. Jésus a encouragé les siens à aller dans les chemins, le long il dit... allez le long des et contraignez-les d'entrer. Il dit pas allez-y mollo, faut pas aller trop non, contraignez-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Luc 19, 23, et contraignez-les d'entrer, ça veut dire il faut les mettre devant cette réalité que Jésus est vraiment le sauveur. Il n'y a pas 150 sauveurs, il n'y en a qu'un. Et beaucoup sont venus faire et dire des choses. Il y en a certains qui suivent des prophètes invraisemblables. Lui, il est venu et le seul sang qu'il a versé, c'est le sien. C'est pas celui des autres. Vous avez des religions qui ont versé le sang, même des religions chrétiennes, qui soi-disant chrétiennes, qui ont versé le sang, qui ont brûlé des gens. Jésus, le seul sang qu'il a versé, c'est le sien pour sauver les gens. Il n'a jamais dit, allez sonner la cloche de l'église et priez très fort pour que les gens y viennent. Non, jamais, jamais, jamais. En fait, il a dit, sortez de vos quatre murs, en quelque sorte, je paraphrase, sortez de vos quatre murs et incitez-les à entrer, amenez-les, faites-les venir. Et c'est exactement ce qu'ont fait ceux qui l'ont entendu, et c'est ce que nous devons faire, nous qui... Bon, on n'a pas entendu nous le dire, mais on a lu qu'il l'a dit. Et lire ce que Jésus dit, c'est comme l'entendre lui. Et nous avons obéi à la même chose. Quand on lit qu'il faut faire une chose, ben on le fait, et puis voilà. On ne dit pas, non, ça c'était seulement pour les douze, c'est pas pour nous, ah non... Non, moi je suis qu'un pauvre vermicelle sauvé par grâce, vous savez, je suis pas grand chose, je suis pas. Voilà. Même Moïse, il disait ça, il disait, oh, vous savez, non, mon Dieu, j'ai pas la boucherie, je suis pas très habile pour parler. Toutes les excuses sont bonnes. Non, elles sont pas bonnes. On peut toujours, il faut y aller, c'est ce que Jésus veut que nous fassions. En fait, les premiers disciples faisaient tellement penser à Jésus-Christ que les critiques, par dérision, les ont surnommés les chrétiens. C'est ça, chrétien, c'est chrétien. Comme les gens de Paris, c'est les parisiens. Les gens de Jésus, c'est les chrétiens. Parce qu'ils ressemblaient beaucoup à Jésus, ils faisaient les mêmes choses. Me dire oui, mais le temps des miracles est fini. Pour vous peut-être, parce que vous n'y croyez pas. Ça, c'est pas de ma faute si vous y croyez pas. Il faut simplement que vous lisiez la Bible et que vous voyez que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il vient en vous et que c'est par vos mains qu'il peut faire les choses. C'est par vous qu'il peut faire les choses. Vous voyez, ceux qui devenaient disciples invitaient les gens au mode de vie de Jésus. Ils se montraient eux-mêmes comme des modèles. L'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Jésus-Christ ». Et voilà, ben c'est ça qu'on a à faire. Alors si vous avez l'excuse de ne pas pouvoir sortir facilement parce que vous n'avez pas de voiture et que vous habitez dans un coin isolé, vous n'êtes pas isolé, vous avez un téléphone, vous avez Internet, vous pouvez écrire, vous pouvez faire des contacts, vous pouvez répondre à des gens. Il y a des tas de gens qui se posent des tas de questions, vous pouvez répondre, il y en a qui vont vous envoyer balader. Hier, il y en a une qui m'a insulté, mais d'une façon magistrale. Qu'est-ce que ça peut faire ? Jésus, c'était pareil, il était souvent... Ils ont même été jusqu'à le crucifier. Ils vivaient, ils enseignaient, ils agissaient comme Jésus. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes des gagneurs d'âmes parce que Jésus était un gagneur d'âmes. Il gagnait les âmes pour le royaume de Dieu. Dans Actes 5, 42, il est dit, chaque jour... dans le temple ou dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ. Ils étaient au service de leur Seigneur tous les jours. Tous les jours. Ils étaient chaque jour au service de Jésus, exactement. Vous savez, dans le monde des affaires, par exemple, c'est tous les jours que les gens, dans les affaires, ils s'occupent de leurs affaires, la bonne marche de leur bar. Il n'y a pas un patron de bar qui dit non, aujourd'hui je me sens pas poussé à aller travailler. Non, chaque jour il va faire ce qu'il doit faire. Pour les casinos, pour les champs de course, pour les magasins, c'est chaque jour. Nous sommes appelés chaque jour en train d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ. Les chrétiens qui prennent conscience de ce principe retrouvent le zèle de l'Église primitive. Parce que c'est... Moi, je me rappelle quand je me suis converti, alors au début, j'écoutais le bon pasteur prêcher, j'apprenais des choses, c'était formidable, puis après j'ai vu que ça tournait un petit peu en rond. Je me suis dit, oh là là, je vais pas pouvoir rester 15 ans là-dedans comme ça, c'est pas possible, je vais mourir. Il faut que je me bouge, quoi. Et heureusement, il y a un homme qui s'appelait Joe Portal, de Jeunesse en Mission, et qui m'a vu prêcher. Il est allé trouver mon pasteur, il lui a dit, ce jeune-là, il va mourir s'il continue là, à prêcher à des grands-mères qui en savent plus que lui. Il faut l'envoyer là où sont les gens, quoi. Et c'est comme ça que je suis parti avec Joe Portal et sa femme, et une équipe de Jeunesse en Mission, à Paris, rejoindre Bill William, et j'ai travaillé pendant 7 ans avec Teen Challenge, et on était vraiment dans les rues. Et puis on rentrait tard le soir, et des fois il n'y avait plus de métro, il fallait que je traverse tout le bois de Vincennes à pied pour pouvoir aller jusqu'au Perreux, enfin c'était toute une histoire. Mais on le faisait avec joie, pourquoi ? Parce que c'était pour Jésus, et c'est tout à fait normal. Puis après j'ai rencontré Christian Dufour qui m'a emmené en Inde pour prêcher l'évangile, et puis j'ai pas arrêté. Quand je regarde ma vie, je dis mais c'est pas possible, tout ce que j'ai fait, c'est incroyable, c'est formidable, je suis content, j'ai une vie bien remplie, j'ai vraiment une vie bien remplie. Le zèle de l'Église primitive, pas simplement d'aller réchauffer un banc d'église, d'écouter le bon pasteur qui prêche. Je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux. Il n'y a rien de plus ennuyeux. Et ils trouvent, les gens, des tas de moyens, ceux qui veulent, ils trouvent des tas de moyens pour partager avec les autres la bonne nouvelle de Jésus. On peut trouver des tas de moyens. Vous savez, le grand public est dans la confusion quant aux valeurs spirituelles. Il n'y a qu'à regarder sur Internet, vous allez voir n'importe quelle nouillerie. Mais c'est incroyable, c'est infernal. Puis alors les gens, ça, ils y croient. Hein. Là, j'ai mis sur... je ne vais pas recommencer nous avec ça, mais il y a vraiment des choses invraisemblables, incroyables. Beaucoup de gens sont perdus et cherchent, c'est pas une direction, mais ils savent pas à quelle église ils peuvent vouer leur confiance. C'est normal, parce qu'il y a tellement de trucs bizarres, il y a tellement de... c'est infernal. Alors, est-ce que Jésus a dit qu'il fallait créer des églises, un bâtiment appelé église, dans lequel il faut aller tous les vendredis soirs et tous les dimanches? Non, il n'a pas dit ça. Lui, il avait ses disciples, ils allaient partout, à gauche, à droite, et puis les disciples, ils ont continué aussi comme ça, et puis ils vivaient en communauté, ils avaient un seul cœur, une seule âme, un seul but, c'était l'évangélisation, il y avait plein de gens qui se convertissaient, ils vivaient une bonne vie. Eh bien, c'est ça. Vous pouvez faire la même chose, vous êtes obligé d'avoir un pasteur à votre tête qui vous dise comme ci, comme ça. Non, vous pouvez vous-même, si vous emmenez quelqu'un à Jésus, une, deux, trois, quatre personnes, bah, vous pouvez commencer à vivre comme les premiers chrétiens, et puis prendre vos repas ensemble, et puis prier ensemble, et voilà. Alors, des flots de gens, en ce moment, courent vers des psychologues, il y a des psychologues de pacotille, des psychiatres bizarres, des voyants, des spirites, toutes sortes de... Et les gens servent en général de Kobe pour des théories conçues par la vague grandissante des psychothérapeutes qui débroussaillent, qui essayent, ils font de leur mieux, mais les pauvres... Les enfants sont dans la confusion, parce qu'ils vivent dans des familles confuses, les adolescents... vont à la dérive, les parents se disputent, les enfants ça leur fait peur, ça. Alors pourquoi est-ce que les gens veulent plus se marier aujourd'hui? Parce qu'ils ont vu comment ça s'est passé avec leurs parents. Alors voilà, c'est comme ça, hein. L'insécurité, le désarroi dans des foyers, l'alcoolisme, la brutalité quand c'est pas la perversion. Tout ça, ça remplace l'harmonie, l'amour, la stabilité dans la vie des familles. Et quand je viens pour prêcher l'évangile, on me dit « Ouais, tu fais ça pour l'argent. » Ah, je fais ça pour l'argent. Ça, c'est sûr, je fais ça pour l'argent. Par exemple, là, le voyage de Philippe et Marie-Claire, il y a quatre personnes qui ont donné de l'argent. Hein, sur les 2500 qui viennent nous écouter tous les dimanches sur Internet. Mais le reste de l'argent, c'est Philippe et Marie-Claire et la communauté. Philippe et Marie-Claire sont allés travailler trois fois par semaine sur des marchés pour vendre des petits objets, pour pouvoir... voilà. À part ça, c'est ce que je fais, c'est pour l'argent. Non, mais les gens... Oui, parce qu'il y en a qui sont comme ça, alors ils me foutent dans le même panier. Hein, voilà, c'est pour l'argent que je le fais. Ils cherchent même pas à comprendre, ils m'insultent. Hein, puis, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, les gens qui m'insultent maintenant, je les bloque et puis c'est tout. Je cherche plus à discuter, ça. Il y a des milliards de personnes qui attendent. Je ne veux pas discuter avec des gens qui sont de mauvaise foi, ça ne sert à rien du tout. Alors, qu'ils aillent voir leur psychiatre, c'est bien, c'est super. La maladie, les infirmités, le stress mental. Tout ça, c'est le vide spirituel qui trouve pas de solution. Parce qu'on a un vide à l'intérieur de soi, c'est ce vide. Raphaël, il disait, le gitan, le prédicateur gitan, il disait, ce vide, il a la forme de Jésus. Tant que Jésus n'est pas rentré dans ce vide, ben vous n'êtes pas comblé, hein, ça ne marche pas. Hein, c'est comme si vous avez un vide qui a une forme de carré, puis vous mettez une boule dedans, ben ça ne va pas. Il n'y a que Jésus qui peut remplir le vide qui est à l'intérieur de vous. C'est pas une jolie phrase, c'est une réalité, parce que Jésus est vraiment vivant, et il veut vraiment vivre en vous, et il veut vivre aussi dans les gens que vous côtoyez, que vous rencontrez. Il y a des familles aisées, on dirait que tout va bien, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière leur porte, hein, une fois que la porte est fermée, qu'est-ce qui se passe? Ils vivent des choses des fois très bizarres. Après, on est très étonné. Alors, vous avez des gens qui viennent témoigner à la télé en disant « Ah ben, on n'aurait pas pensé, il était tellement gentil. Oh, mais comment ça se fait qu'il a pu égorger sa femme et ses enfants? Il était tellement gentil, il était sympa, on le voyait tous les jours à la boulangerie. Il nous disait bonjour, il était très souriant. Oh, il n'était pas très bavard, mais on n'aurait jamais pensé. » On n'aurait jamais pensé. Hein. Qu'est-ce qui se passe derrière les portes chez les gens, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus pour être délivrés de tous ces démons qui les agitent. Des millions de chrétiens, de membres d'église ne s'adressent pas à ces gens. Ils prient. C'est une chanson de Jacques Brel qui dit, vous savez, chez ces gens-là, on prie. Ouais. Vous savez, nous ne pouvons pas voir Jésus, c'est vrai, il est parti, il a dit qu'il reviendra. Nous ne pouvons pas lui exprimer notre amour personnellement. Et c'est pas en sautant dans les églises, en dansant dans les églises, en se roulant par terre dans les églises qu'on lui prouve notre amour. Pas du tout, c'est pas ça. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est les gens, on peut les voir. Et nous pouvons faire pour eux ce que nous aimerions faire pour Jésus. S'il était visible, il a dit tout ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Alors voilà, vous voulez faire quelque chose pour Jésus, ben faites-le pour les gens. Ben c'est exactement la même chose. Là, par exemple, ce qu'il va faire Philippe là avec ses tuyaux et tous ces trucs, pour Jésus. Bien sûr, ça va, les gens vont en bénéficier, mais ils vont se rappeler que voilà, c'est quand même des chrétiens qui ont bougé, qui ont témoigné, qui sont. Hein? Les gens seront perdus si vous continuez à prier pour eux. Ils me diront, bon, mais bien sûr qu'ils seront perdus si vous priez. Parce que Jésus ne peut pas leur parler, il peut leur parler que par vous. Il peut s'adresser à eux par vous, il vit en vous pour ça. Il vit pas en vous pour vous faire danser dans les églises ou sauter en l'air ou... J'ai vu là un pasteur qui est tellement, il hurle tellement, il frappe sur la chair, il la met en miettes. C'est incroyable. Vous allez sur YouTube, vous allez voir ces trucs qui se passent dans les églises, c'est incroyable. Jésus nous a pas appelé à faire des trucs comme ça. Jésus faisait pas des trucs comme ça. Les apôtres non plus. Nous sommes simplement sa voix, son expression ici-bas sur cette terre pour le moment, en ce moment, quand on va disparaître. Il y en aura d'autres qui viendront et qui le feront, qui continueront à le faire. Ça fait depuis que Jésus est parti, il y a toujours eu les témoins, puis il y a toujours eu des flemmards, et puis des gens avec des excuses. Vous savez, vous pouvez être en Christ, vraiment en Christ, et finir par être retranché. Vous savez ça? On va lire dans Jean 15, chapitre... C'est Jean 15, 1 à 7. C'est Jésus qui parle et qui dit « C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le sarment qui ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché, le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. C'est un sarment. Et Jésus est le cep. Et si vous ne portez pas de fruits, vous serez enlevé du cep. Si vous portez du fruit, moi j'ai porté du fruit, j'en porte encore, si vous portez du fruit, bien Jésus va vous tailler, c'est-à-dire que un sarment, il fait des tiges, il fait des feuilles, il fait un tas de trucs qui bouffent la sève pour pas grand-chose, parce que ce que le vigneron il veut, c'est pas des grandes tiges ou des feuilles, il veut des fruits. Le vigneron, c'est le père, il n'a pas des sentiments, il vit pas par les sentiments, il vit par l'intérêt. Il veut des fruits, il veut pas des feuilles, il s'en fout des feuilles. Les feuilles, c'est ça va juste pour protéger un petit peu les fruits du soleil et tout ça. Mais ce qu'il veut, c'est du fruit. Si vous savez, je suis né dans un vignoble de Lavaux en Suisse, sur les bords du Léman. Je sais ce que c'est que la vigne. Je sais ce que c'est un cep. J'ai travaillé dans la vigne. J'ai fait ce qu'on appelle, on avait des vacances d'émondage, on appelait ça en Suisse. On n'allait pas à l'école, on allait dans la vigne, puis on émondait. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mais on coupait justement ces grandes tiges qui servent à rien. On émondait. Ben voilà, tout. Je sais ce que c'est que le cep. Je vous ai mis une photo là, sur Révélation Bible d'un cep avec les sarments. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, vous êtes sur le cep, mais si vous ne portez pas de fruits, hop, du balai. Je sais ce que c'est que le vigneron. Jésus dit, mon père, c'est le vigneron. Et il dit, il n'a pas d'état d'âme, hein, si tu ne portes pas de fruits, il te coupe, il te fout au feu. Oh Michel, quand on est sauvé, c'est pour vous, on est sauvé. Non, Jésus ne dit pas ça, je suis désolé. Il dit, si tu ne portes pas de fruits, il te fout en l'air. Mais Jésus, tu nous engueules. Ouais. Si vous pensez comme ça, ben vous pouvez penser comme ça. Mais moi je vous dis ce que Jésus dit. Si tu portes pas de fruits, tu seras retranché, puis c'est tout. Et le sarment qui porte pas de fruits, il le coupe, puis il le fout au feu, puis voilà. Et puis le vigneron, moi j'ai jamais vu un vigneron qui coupe un sarment, puis qui le fout au feu, puis qui pleure, qui dit, oh là là, comme c'est triste, oh c'est épouvantable, oh. Ben Dieu non plus, hein, il n'a pas d'état d'âme, hein. Tu portes pas de fruits, pac, clac, hop, au feu. Du balai, circuler, il n'y a rien à voir, tu ne sers à rien. Une autre fois, il raconte l'histoire d'un arbre, je crois que c'est un olivier ou un figuier, je ne sais pas quoi. Et il vient, puis il dit, il ne porte pas de fruits, ça fait des années, il ne porte pas de fruits, enlève-le. Et puis l'ouvrier, il dit, bah, écoute, laisse-moi m'occuper encore un peu, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier. Là, c'est ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de creuser autour de vous, puis je vous mets du fumier, des choses que vous aimez pas. Hein, je vous dis des choses que vous aimez pas sentir. C'est désagréable d'entendre des prédications comme ça. Alors, je mets du fumier, hein, et puis il dit, je vais mettre du fumier, puis l'année prochaine, si vraiment il porte pas de fruits, bon, on enlèvera. Ben, voilà, mais Dieu, il est comme ça, il ne fait pas dans le sentiment. Non. Il a des exigences. Je vous le disais l'autre jour, Jésus a des exigences. Il est exigeant. Il ne s'amuse pas avec nous. Pas d'état d'âme. Un sarment qui ne porte pas de fruits, il le coupe et il le jette au feu. Au feu. Alors, porter du fruit, c'est pas seulement être gentil, ne pas fumer, ne pas s'enivrer. Il y en a beaucoup qui disent, ah, mais c'est le fruit de l'esprit qu'il faut manifester. La paix, l'amour, la joie, le bonheur, vous savez, ce qu'on trouve dans, je crois, c'est dans Éphésiens ou Galates, je sais plus quoi, le fruit de l'esprit. Pas vraiment. Oui, bien sûr. Ce que produit le Saint-Esprit en nous, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la tempérance et toutes ces choses. Mais dans un but, celui de témoigner que Jésus vit en nous. Oh, moi, je porte du fruit, je suis rempli d'amour. Oui, tellement rempli d'amour que tu parles même pas du sauveur aux gens perdus autour de toi. Alors, c'est quoi cette espèce d'amour sentimental là? Il y a quelque chose qui joue pas, il y a quelque chose qui est pas logique. Au verset 8, Jésus dit, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Alors, vous serez vraiment mes disciples. Il veut que vous portiez beaucoup de fruits, pas seulement 3-4 raisins un peu secs qui se courent après. Il veut que vous portiez beaucoup de fruits. Ouais. Je vous rappelle, on avait été chez le frère Osborne et un jour il avait invité un homme qui était dans une chaise roulante. Et il nous a dit, ça c'est un gagneur d'âme extraordinaire, avec sa chaise roulante, il va partout, il témoigne, il parle de Jésus à tout le monde. Tu te rappelles, chérie? Il emmène des gens à Jésus tout le temps, sans arrêt. Et puis un jour, on était en train de visiter amusé avec le frère Osborne, et puis une petite grand-mère qui s'est approchée et qui a dit: oh frère Osborne, je suis tellement content de vous voir en vrai, je prie pour vous depuis tellement d'années, et puis je soutiens votre ministère. Vous savez, je ne peux pas faire grand chose, mais je soutiens financièrement votre ministère. Et il lui a dit: mais sœur, quand vous soutenez financièrement mon ministère, c'est comme si vous étiez avec moi quand je suis en train de prêcher, parce que je ne pourrais pas aller prêcher si vous ne souteniez pas mon ministère. Donc elle était elle gagnait des âmes aussi d'une autre manière, en aidant quelqu'un qui pouvait le faire. Elle ne pouvait plus, elle était trop âgée, trop mal foutue pour aller prendre un avion, aller au Togo ou au Burkina Faso ou au Pôle Nord. Non, mais par contre, elle soutenait un ministère qui faisait ça. Sans les gens qui soutiennent les ministères, il y a plein de ministères qui n'existeraient pas, parce que c'est difficile. On est un corps, et chaque membre de ce corps a sa fonction. Si vous soutenez un ministère, c'est comme si vous étiez le ministère lui-même. Donc il ne faut jamais vous désespérer, vous pouvez toujours porter du fruit. Ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, ça sera tenu de toute façon pour votre compte, à votre bénéfice. Moi je suis un des fruits de Raphaël. Raphaël, il est venu, il a quitté la France, il est venu en Suisse, il n'avait pas un rond. Je me rappelle, ma mère était au fond de la salle, et puis il y avait Violette, la femme de Raphaël, qui était là, et puis elle dit à ma mère: prie pour Raphaël, son pantalon, c'est une dame veuve qui a donné le pantalon. Il est trop gros, il va tomber, il tient avec des ficelles. Il faut prier pour lui que les ficelles tiennent bien, sinon il va perdre son pantalon devant tout le monde. Ils n'avaient pas un rond. Ils ont tout quitté en France pour venir prêcher en Suisse. Pas pour l'argent. Mais parce qu'ils voulaient gagner des âmes. Et ils m'ont gagné, moi par exemple, d'autres aussi. Et puis moi j'ai répété ça, j'ai reproduit ce qu'ils faisaient. Et j'ai conduit, moi aussi, des milliers d'âmes à Jésus. Raphaël était très fier, très content de voir un bon fruit comme ça. Alors voilà pourquoi Jésus me taille. Voilà pourquoi j'ai des problèmes. De temps en temps, paf! Opération du cœur à cœur ouvert, paf! Talon d'Achille qui pète, paf! Cancer, paf! Des deuils, paf! Mais pourquoi? Pourquoi Seigneur? Il me taille. Il vous taille. Si vous portez du fruit, il vous taille. Alors ne dites pas: oh, il me taille. Il vous taille si vous portez du fruit. Autrement, c'est simplement les conséquences de la vie normale, quoi. C'est les difficultés que tout le monde a. Mais quelqu'un qui porte du fruit pour Jésus, Dieu le taille pour que ça le booste. La sève, elle va dans les fruits plutôt que d'aller dans les feuilles et dans les branches. Pour celui qui connaît pas Jésus, qui porte pas de fruits pour Jésus, quand il est taillé, quand il a des difficultés, eh ben ça l'attriste, ça l'abat, il sait pas, alors qu'est-ce qui m'arrive, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Ma vie, c'est moi, je pourrais pas me contenter de ne porter que des tiges et des feuilles. Je veux du fruit. Jésus s'attend à ce qu'on porte du fruit, alors je veux porter du fruit. Alors pensez à ces choses, mettez-vous au travail. Ne priez pas 150 ans pour savoir si ce que je vous dis c'est la volonté de Dieu. Je vous l'ai montré dans la Bible. Alors faites-le, commencez. Pas demain, déjà aujourd'hui, commencez. Hein? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que vous trouvez que c'est difficile, par exemple, vous invitez des amis, et puis vous faites une tasse de thé, des petits gâteaux, des trucs. Vous dites: dis donc, j'ai quelque chose à vous dire. Et puis vous parlez de Jésus. Puis un jour, ils diront: oh, mais qu'est-ce que tu viens nous casser les pieds avec tes momories, avec ta religion? Vous êtes chez vous, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Vous commencez comme ça. Hein? une tasse de thé, des petits gâteaux, ils ne vont pas les refuser. Mais ils ne vont pas refuser vos paroles non plus. Ils vont vous écouter. Puis s'ils ne veulent pas vous écouter, ben, la prochaine fois, ils ne reviendront pas. Puis c'est tout. Et puis c'est tout, comme on dit en Suisse. Mais c'est pas difficile. Et puis, je sais pas, moi, par exemple, vous allez tous chez les commerçants. Mais ça vous coûte quoi, par exemple, de donner un évangile à la caissière que vous voyez tous les jeudis ou tous les vendredis? Ça vous coûte quoi? Oh, il faut que j'achète des évangiles. Ben oui, il faut que t'achètes des évangiles. Mais c'est cher. Non, c'est pas cher. Il y a des bibles à la FNAC qui coûtent 1 euro. Alors, les évangiles, c'est encore moins cher. Et vous pouvez donner un évangile. Hein? Moi, par exemple, les médecins qui m'ont opéré, ils ont tous eu mon bouquin, une bible, et puis j'ai rajouté une bouteille de champagne avec. Il faut faire plaisir aux gens. Et puis en même temps, vous glissez l'évangile avec. C'est des idées que je vous donne. C'est faisable, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, ma coiffeuse, pareil, elle a... Je vous parle souvent de Sylvie Vartan, mais elle a lu mon bouquin, j'ai offert une Bible, elle me connaît, quand elle me voit, elle sait qui je suis, hein. Elle se rappelle. Le jour de mon anniversaire, elle m'a donné elle a dégrafé une étoile qui était sur sa robe, et puis elle me l'a offerte le jour de mon anniversaire, ça fait plaisir, il est toujours dans mon bureau. Parce que quand elle me voit, elle sait que je suis un... qui je suis et ce que j'ai fait. On me dirait, oui, mais elle est toujours catholique. On s'en fout de ça, Dieu, il s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est est-ce que vous avez parlé de Jésus. Après, les gens, ce qu'ils en font, c'est pas... Il faut témoigner. Nous sommes des... Camélia, la sœur gitane, elle disait, depuis que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je suis une témointe. Une témointe, c'est fait pour témoigner. Et oui, témoigner, c'est pas difficile. Moi, j'ai vu Camilla témoigner à des gens n'importe où. Elle disait, vous savez, je sais pas lire, mais je sais pas écrire, mais une chose que je sais, c'est que Jésus est vivant. Il dit, mais comment ça, vous savez... Les gens étaient étonnés, ils disaient, comment ça, vous dites que vous savez pas lire, vous savez pas écrire, mais vous connaissez la Bible par cœur. Il dit, non, je connais pas la Bible par cœur, mais j'ai des oreilles et j'écoute, et quand le pasteur parle, je retiens ce qu'il dit, et puis je viens vous le dire. Vous voyez, c'est tout simple, c'est pas compliqué, il faut pas en faire toute une histoire. Et commencez, et vous verrez, vous allez commencer à porter du fruit, et puis vous savez... Quand on gagne quelqu'un pour Jésus, c'est la plus grande joie qu'on puisse connaître. C'est comme une femme qui met au monde un enfant. C'est quelque chose de spirituellement profond. C'est beau, c'est la vie, c'est magnifique. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de garder mes frères et sœurs qui ont entendu ce message. Merci aussi de bénir Philippe qui va bientôt arriver là-bas au Togo. Je te prie pour lui afin que il puisse conduire des gens à toi tout en faisant son travail. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir. À bientôt. Si Dieu le veut.